Il est 7h.
C'était une émotion très très forte de rencontrer le public. Chanter, c'est comme respirer. Alors de ne pas chanter et de ne pas être avec les musiciens, c'est terrible.
Des concerts à nouveau au Portugal qui rouvrent restaurants, bars et lieux de culture, alors que l'objectif de la mi-mai en France laisse les médecins de plus en plus sceptiques. Et lors de cette réouverture, aura-t-on assez de monde en cuisine? 100 000 employés pourraient manquer dans la restauration. Explication dans un instant. Les jurés se sont retirés pour délibérer dans le procès George Floyd. Nous serons aux États-Unis dans ce journal. Et puis, Lloris ou Griezmann, vraiment privés d'euros cet été, à suivre le vrai faux des sanctions promises par l'UEFA contre les clubs qui lancent la Super League. Et justement, l'édito sport de Virginie Fulpin dans 20 minutes.
Les joueurs de football, quels joueurs? Dans la guerre engagée entre l'UEFA et les 12 gros clubs qui créent la Super League, ils ne sont en fait que les dindons de la farce.
Juste après ce journal, l'éclairage éco, Daniel Fortin.
Et je vais vous parler de l'incroyable engouement des Européens pour la voiture électrique.
Suivi du regard international de Vincent Hervouet. Et puis enfin, nous serons avec Stéphane Bern, bien sûr, pour notre rendez-vous d'histoire. C'est juste avant 7h30. Très bon réveil à toutes et à tous sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le journal de 7h, c'est avec vous, Théo Manval. Bonjour Théo.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Le gouvernement maintient l'espoir d'une réouverture des lieux de culture chez nous à la mi-mai, mais les données sanitaires incitent assez peu à l'optimisme. 31 000 nouveaux cas hier, l'épidémie de Covid ne baisse pas, malgré deux semaines de semi-confinement. À la différence de ce qui se passe au Portugal, 500 cas quotidiens aujourd'hui, c'est 25 fois moins qu'au mois de janvier, résultat de mesures beaucoup plus strictes et qui ont permis hier soir, après 4 mois de clôture, la réouverture des salles de concert où s'est rendu Henri de la Guérie.
Entourée de 4 musiciens dans le joli petit théâtre de Loulé, Teresa Salgueiro interprète des chansons de la Révolution des œillets de 1974. Entre deux morceaux, elle a une pensée pour tous ceux qui ont perdu la vie à cause du Covid. Elle remercie le personnel soignant. Privée de scène depuis janvier, elle a l'impression de revivre.
C'était une émotion très très forte de rencontrer le public.
Ça vous avait manqué ?
Ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour moi, chanter, c'est comme respirer. Alors, de pas chanter et de pas être avec les musiciens, c'est terrible.
Dans la salle, un siège sur deux doit rester libre. Les spectateurs portent le masque. On a pris leur température avant d'entrer. Les artistes ont dû faire un test PCR. C'est un peu contraignant, mais la réouverture des salles était urgente, explique Paulo Silva, programmateur du théâtre.
Ça aide à faire bouger aussi l'économie. Il y a beaucoup d'artistes au Portugal qui, à 4 mois, qui ne font rien. C'est des milliers de personnes. C'est nécessaire.
Le concert affiché complet pour Vitor, présent dans la salle. La culture et le Covid ne sont pas incompatibles.
Ça peut se combiner parfaitement, comme a eu justement l'exemple ici.
Et à la fin du concert, tous les spectateurs sont repartis avec un œil rouge. Loulé, Henri de la Guérie, Europe 1.
Le Portugal, où les restaurants ont aussi le droit désormais de servir à l'intérieur. En France, on s'inquiète d'un possible manque de bras quand le service pourra reprendre.
Oui, 100 000 salariés pourraient manquer à l'appel. C'est ce qui ressort, Olivier Samin, d'une étude menée par les professionnels de la restauration.
Oui, 100 000 commis de cuisine, serveurs, barmen, chefs de rang, maîtres d'hôtel, qui pour certains n'ont pas donné signe de vie à leur patron depuis un an et qui pourraient ne pas répondre présent quand l'activité redémarrera. Le chômage partiel a été l'occasion pour certains de découvrir qu'on peut avoir ses soirées avec son conjoint et ses enfants, qu'on peut aussi avoir ses week-ends. D'autres ont mis à profit cette inactivité forcée pour entreprendre une reconversion. L'étude montre que cette crainte des patrons est particulièrement forte dans un établissement sur deux, d'où la nécessité de renforcer l'attractivité du secteur. Didier Chenet préside le groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration. L'un des leviers, dit-il, c'est le réaménagement des horaires des salariés.
Comment envisage-t-il leurs heures de travail? Est-ce qu'il faudra aller vers uniquement pour certains midi, pour d'autres ce sera uniquement le soir? Est-ce que l'on va continuer avec ce système de la coupure qui veut que quelqu'un travaille à midi, puis aille se reposer, puis revient travailler le soir? Oui, c'est tout un tas de réponses qu'il va falloir que nous trouvions.
Des réponses aussi sur la rémunération avec le versement de primes, la mise en œuvre d'un management moins vertical et une politique de formation plus volontariste.
Olivier Samin.
7h05 sur Europe 1. Pour l'heure, c'est sur la sécurité que veut se montrer l'exécutif après le président hier à Montpellier. Déplacement aujourd'hui du Premier ministre.
Jean Castex dans le Haut-Rhin pour annoncer les sites retenus pour la création de 15 000 places de prison. Son prédécesseur, Édouard Philippe, était lui sur Europe 1 hier soir. Entretien exceptionnel au micro de Michel Denisot, au cours duquel il est revenu notamment sur la question de la dette dont nous parlait Daniel Fortin ici même hier. Elle a explosé avec la crise sanitaire et le sujet ne peut pas ne pas être un enjeu central pour 2022. Voilà ce qu'estime Édouard Philippe.
Si on veut revenir en maîtrise de nos finances publiques,
Il faut se fixer un chemin de maîtrise de la dépense qui dure 10 à 15 ans et qui est rigoureusement respecté. Ça veut dire dépenser moins, ça veut dire faire des réformes dont on sait qu'elles ne sont pas populaires, dont on sait qu'elles ne sont pas attendues, mais qui sont indispensables. De ne pas les faire coûtera demain beaucoup plus cher. La réforme des retraites, qui passe par un travail plus long tout au long de la vie.
C'est le programme du prochain président.
Je ne sais pas si ce sera le programme du prochain président. Ce que je sais avec certitude, c'est que tous ceux qui expliqueront que ce sujet n'est pas au cœur des 5 prochaines années tromperont les Français.
Entretien exceptionnel d'Edouard Philippe avec Michel Denisot à retrouver en intégralité sur Europe1.fr.
Et puis alors justement, un candidat à la présidentielle ce matin, Xavier Bertrand, qui répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15 sur Europe 1. Il répond même précisément à l'offensive d'Emmanuel Macron cette semaine sur le thème de la sécurité.
Au volet judiciaire, la piste d'un gourou complotiste derrière l'enlèvement de la jeune Mia. Un mandat d'arrêt international est lancé contre un Français installé en Malaisie, bien connu des services de renseignement. Il est cité comme une influence par les membres de l'étrange commando mis en examen ce week-end.
Et Europe 1 vous emmène ce matin en Suisse pour tenter de mieux comprendre aussi ce lieu qui a accueilli Mia et sa mère dans leur fuite. Bonjour Arthur Mbaché.
Bonjour.
Vous êtes à Sainte-Croix dans le canton de Vaud, juste derrière la frontière française. C'est là que les gendarmes ont mis fin à la cavale de cette mère dimanche. On a beaucoup parlé d'un squat de militants d'extrême droite survivalistes. La réalité du local que vous avez pu visiter est bien différente.
Alors ce que j'ai vu, c'est une ex-usine de boîte à musique désaffectée mais occupée et aménagée avec soin. Gel hydroalcoolique à l'entrée, non-fumeur, un salon cosy, des vinyles. Une des membres du collectif d'artistes installé ici a bien voulu hier après-midi me faire visiter.
Là c'est atelier couture, donc tout est en travaux, tu vois, on est là depuis un an et demi, donc bien sûr que ça prend du temps. Tout ce que tu vois là, c'est de la récup.
L'occupation se fait avec l'accord du propriétaire, à condition que personne ne dorme sur place. Mia et sa mère, on ne les connaît ni d'Ève ni d'Adam, jure tout le monde ici. On les a accueillis sans savoir pour le kidnapping. Et si elles ont dormi ici, c'est sans nous le dire. Estelle est une autre membre du collectif, blessée d'être assimilée au profil des kidnappeurs de la fillette.
Moi, j'ai reçu un email d'injure hier soir qui me traitait de kidnappeur d'enfants. Ça m'a bouleversée, il n'y a aucun doute là-dessus.
Est-ce que vous êtes complotiste, survivaliste, d'ultra-droite?
Ben franchement, non. C'est juste, je dirais presque l'extrême contraire, rien à voir avec tout ça.
Est-ce que vous avez un problème avec les services sociaux d'aide à l'enfance?
Alors moi, je suis famille d'accueil, si vous voulez le savoir. Non, c'est vrai. Alors non, pas vraiment.
Vous ne voyez, vous, aucun dénominateur commun entre la mouvance de ces kidnappeurs et vous?
Alors vraiment, aucun.
Ici, il est arrivé plusieurs fois qu'une ado fugueuse trouve refuge. On est un peu connu pour accueillir tout le monde. Sans poser de questions, analyse un membre du collectif. C'est sans doute pour ça, dit-il, que la mère de Mia a débarqué ici.
Reportage et décryptage signé Arthur Elmbaché en ligne de Sainte-Croix pour Europe 1. Toujours à l'étranger, en bref, la lutte fratricide pour la succession d'Angela Merkel enfin tranchée en Allemagne. Son parti, la CDU, choisit Armin Laschet pour briguer la chancellerie en septembre aux dépens du dirigeant bavarois Markus Söder, très populaire dans les sondages.
Alors qu'aux États-Unis, les jurés se sont retirés pour délibérer dans le procès de la mort de George Floyd.
12 hommes et femmes qui vont devoir s'accorder à l'unanimité pour dire si oui ou non le policier Derek Chauvin s'est rendu coupable de meurtre. En clôture de sa plaidoirie cette nuit, son avocat a demandé l'acquittement quand le procureur a martelé Sonia Dridi que l'agent n'avait aucune excuse.
Le procureur a terminé sa plaidoirie en projetant une nouvelle fois au juré les images de l'agonie de George Floyd. Pendant plus de 9 minutes, on voit l'ancien policier maintenir son genou sur le cou de l'Afro-Américain, allongé sur le ventre, les mains menottées dans le dos. Selon l'accusation, l'ex-policier est coupable des 3 chefs d'accusation, meurtre, homicide involontaire et violence volontaire ayant entraîné la mort de Floyd.
George Floyd a supplié jusqu'à ce qu'il ne puisse plus parler et l'accusé a continué cette attaque.
L'avocat de Derek Chauvin a lui tenté de convaincre le jury que George Floyd est décédé en raison de problèmes cardiaques et de consommation de drogue. Il a aussi affirmé qu'immobiliser George Floyd, qui a résisté et donné des coups de pied, était raisonnable pour la sécurité de Chauvin et de ses collègues.
Vous ne devez pas oublier que les policiers sont des êtres humains. Ils peuvent faire des erreurs dans des situations très stressantes.
Derek Chauvin encourt jusqu'à 40 ans de prison, mais aux États-Unis, un verdict doit être prononcé à l'unanimité. Les condamnations de policiers pour meurtre sont rares. Minneapolis se barricade en attendant l'issue du procès. À Washington, Sonia Dridi, Europe 1.
Puis enfin, en football, quelle suite et surtout quel recours pour l'UEFA dans sa bataille contre la Super League lancée par 12 grands clubs européens.
Les menaces lancées depuis hier sont nombreuses. On va tenter de voir si elles tiennent vraiment sur le plan juridique. Avec vous, Simon Rubin, bonjour.
Bonjour.
La riposte de l'instance européenne du foot s'annonce en réalité assez compliquée.
Oui, alors l'UEFA prépare une riposte sur deux fronts. Contre les clubs, d'abord, en excluant ceux qui veulent participer à la Super League. La Ligue des Champions, ce serait donc fini pour le Real, Barcelone, Manchester ou la Juventus. Et puis les avocats de l'UEFA travaillent en ce moment même sur la possibilité d'empêcher les joueurs participant à la Super League de jouer avec leur sélection nationale. Ils pourraient par exemple être exclus de l'Euro cet été, Euro organisé par l'UEFA. Mais tout cela semble difficile à défendre devant des juges, explique l'avocat spécialiste en droit du sport, Thierry Grand-Turco.
Il y a déjà eu des décisions de justice qui ont permis la création de compétitions privées, qui ont permis aux athlètes d'y participer et d'échapper à toute sanction. Le dossier des 12 clubs européens est très solide.
Exclure les clubs serait donc illégal. Exclure les joueurs le serait aussi. De fait, l'UEFA n'a pas de marge de manœuvre sur le plan juridique. Seul obstacle potentiel à cette Super League, la mobilisation politique, et elle est très forte. En France, Emmanuel Macron s'oppose au projet. Même opposition en Angleterre, en Allemagne ou encore en Espagne.
Opposition des politiques, d'une grande partie des supporters, beaucoup de clubs comme le PSG sont contre également, et un grand diffuseur britannique, BT Sport, s'oppose aussi à cette Super League. Le projet a presque l'air morné quand on voit ça.
Alors c'est vrai, l'opposition est très forte parce que cette Super League, elle s'oppose frontalement à la culture sportive européenne. Historiquement, le sport moderne en Europe s'est construit autour du mérite. L'idée qu'en finale, on doit toujours retrouver les meilleurs, pas forcément les plus riches ni les plus connus. La Super League, c'est une autre vision des choses. Elle s'adresse à un public qui n'a pas cette culture, à des fans plutôt extra-européens qui voient le sport d'abord comme un spectacle. Pour qui les clubs, ce sont surtout des marques. Un public plus jeune, mondialisé, qui veut voir des stars et pas forcément des épopées de petits poussets. Quoi qu'on en pense, ce public, il existe. C'est un énorme marché. Et la Super League répond très précisément à cette demande.
Et on retient donc aussi qu'il y a peu de chances de voir Griezmann, Lloris ou Dembélé suspendus donc pour l'Euro pour cause de participation à cette Super League en club. Merci Simon Rubin du service des sports d'Europe 1.
Merci beaucoup Théo Manval, c'était le journal de 7h sur Europe 1.
Europe 1, Mathieu Béliard.